Ce cours est offert par un donateur pour Marie-Foy, complète et rapide. Merci beaucoup. En ayant hâte d'entendre ces cours de nouveau, Baruch HaShem, et bien voici des nouveaux cours, et merci HaShem. La paracha cette semaine, paracha de Vaera, deuxième livre de Shemot. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Vaera, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et j'ai réalisé l'alliance que j'ai conclue avec eux, de leur donner la terre de Canaan, Eretz Megurehem Asher Garuba, la terre dans laquelle ils ont habité. Megurehem, le mot gar, voilà, dans laquelle ils ont habité. La gour signifie habiter, mais le mot la gour vient de la racine guerre. Guerre, c'est un converti. Ça veut dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont habité dans la terre d'Israël, mais ils étaient comme des guérims, comme des convertis, c'est-à-dire un peu étrangers. Pourquoi ? Le Malbim écrit, normalement, Dieu aurait dû dire, Vayu Toshavim, c'était des habitants. Toshav, un habitant, c'est quelqu'un, Toshav, il est assis, il est là, c'est beaucoup plus présent que la gour. Il dit, parce que la terre, après tout, c'est une chose qui est matérielle. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient des gens tellement spirituels qu'en fait, eux, ils habitaient dans le monde supérieur. Le corps était là, ils mangeaient, peut-être ils dormaient, d'accord, mais la tête, elle était dans le monde supérieur. Dans cette terre d'Israël, comme dit le Malbim, qui est une terre qui est faite pour la prophétie, pour l'Ashgacha, la providence divine et la sainteté. C'est une terre spéciale. Donc beaucoup de gens ressentent cela. Un juif qui n'a jamais mis les pieds en Israël, il n'a que le nefesh. Quand il vient la première fois, il reçoit le rouach. Et des fois, il a un choc. On appelle ça le syndrome de Jérusalem, c'est très connu. Dès qu'il atterrit, ou il arrive à Jérusalem, ou il va au Kotel, quoi, il a un choc comme ça, il va à l'hôpital, bon, on connaît, syndrome de Jérusalem. Et s'il vient habiter ici, il reçoit la Neshama, qui est des milliers de fois plus grande que le nefesh et le rouach. Donc c'est un très grand mérite d'habiter en Israël, parce que c'est une terre de sainteté très très grande. Et les Avot, Baruch HaShem, étant dans cette terre de sainteté, ben, ils étaient dans l'Olam Haba. Dans ce monde-ci, la tête était déjà dans l'Olam Haba, ils vivaient déjà dans l'Olam Haba. C'est un peu ce qu'on a vu la semaine passée, dans la paracha où Moshe Rabbeinu arrive au buisson ardent, et Dieu lui dit, « Shalna Alecha, enlève tes chaussures, au pluriel. » Deux chaussures. C'est quoi ces deux chaussures? La première fois, c'est vraiment enlever ses chaussures, tu es sur une terre sainte. La deuxième fois, c'est enlève ta chaussure. C'est quoi la chaussure? C'est ce qui recouvre l'âme. Nous, notre âme, la Neshama, elle n'est pas en nous. Elle est très très haute, et elle descend, les pieds de la Neshama sont en nous. Et notre corps, c'est la chaussure qui entoure le bas de la Neshama. Alors Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, débarrasse-toi de toutes les envies corporelles, enlève ta chaussure, enlève le corps. Donc nous devons bien comprendre que le corps, après lequel on fait tellement d'efforts, c'est que la chaussure de notre être. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est habillé en haillons, des habits sales et déchirés, mais les chaussures, elles sont impeccables. Bien ciré, ses chaussures très chères, brillantes, des chaussures extraordinaires. Il dit, mais à quoi ça sert tes belles chaussures si tu as un corps complètement, un costume tellement déchiré, tellement haillon. C'est comme ça. Quelqu'un qui, dans ce monde-ci, il va s'occuper de son corps, alors il s'occupe des chaussures. Il faut lui dire, mon cher ami, ça va. C'est bien des belles chaussures, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Toi, c'est la Nesha. Faut bien comprendre cela, et nos avots ont très bien compris, et le texte ici nous le suggère. Ok, dans cette paracha, on va commencer les 10 plaies. Au début de la paracha, il y a 4 langages, il y en a 5. Il y a 4 ou 5 langages de sauvetage du peuple d'Israël. Je voulais lire d'ailleurs. Je vous ai sorti des souffrances de la terre d'Égypte. Après, ve gaalti etrem, ve lakarti etrem. C'est les quatre langages par rapport auxquels on met les quatre verres de vin le soir du Seder, etc. Quels sont ces quatre langages? C'est des étapes de la Géoula. Un, l'esclavage difficile avec les tortures a été arrêté, mais il travaillait encore. Après, le travail a été arrêté. Après, Dieu les a sortis d'Égypte. Et enfin, don de la Torah au Sinaï. C'est le quatrième langage. Il y en a encore un autre après. Je vais vous amener dans la terre d'Israël. Mais ça, ça ne fait pas partie des quatre. C'est en plus. Parce que le moment qu'on a reçu la Torah au Sinaï, ça y est, le peuple d'Israël existe, il est libéré, il est spirituel, il est tout ce qu'il faut. La terre d'Israël, c'est un plus. Maintenant, c'est intéressant que dans ces quatre langages, c'est écrit deux fois le mot sivlot. Sivlot, ce sont les souffrances. La première fois, c'est marqué sivlot sans le vav. On pourrait dire sivlat au singulier. Le deuxième, c'est marqué sivlot au pluriel. Pourquoi? Quand quelqu'un souffre physiquement, le premier langage, c'est « je vous ai sauvé des tortures ». Quand quelqu'un est sous les tortures, il n'a pas maintenant, il voit pas qu'il manque de spiritualité, il n'a pas la tête à ça. Lui, maintenant, il essaie de survivre au niveau du corps. Alors Dieu lui dit « je vous ai sorti des souffrances du corps, mais c'est au singulier », parce que le type, il comprend qu'il n'a que les souffrances du corps. En fait, il avait beaucoup de souffrances aussi spirituelles. L'Égypte, c'était le centre de toute la Touma mondiale, d'accord? Ils étaient très, très, très touchés par cela, mais ils ne se rendaient pas compte. Parce que quand quelqu'un il est torturé en esclavage, il ne pense pas qu'il lui manque maintenant la spiritualité d'être proche d'Hachem. Il pense maintenant qu'il doit survivre aux tortures, survivre à l'esclavage. C'est pour ça que Dieu nous dit « je t'ai sorti de la souffrance de l'esclavage ». Après, quand on parle maintenant du langage du mont Sinaï, « Amotsi etrem mitachat sivlot Misraël », c'est la sortie des souffrances de la terre d'Égypte, ça c'est au mont Sinaï. Au mont Sinaï, Bnei Israël sont arrivés à un niveau de spiritualité, de pureté tellement grande qu'ils ont compris qu'avant en Égypte, il y avait deux problèmes. Il y avait le problème de l'esclavage physique, mais aussi de l'esclavage spirituel, qu'ils n'étaient pas du tout dans la sainteté, tout au contraire. Et commencent les 10 plaies. Les trois premières plaies, Dam, Sardé, Akinim, le sang, les grenouilles et les poux. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a effectué cette plaie, c'est Aaron. Pourquoi? Les deux premières, c'est qu'il fallait frapper le Nil. Et Moshe Rabbeinu avait, à Karatatov, avait une reconnaissance du bien au Nil, que grâce au Nil, il a été sauvé quand il était un petit bébé. On l'a mis dans un panier en osier sur le Nil. Le Nil l'a tenu. Bien que nous, on se dirait, bon, et alors? D'abord, c'était il y a 80 ans, et puis il n'a pas fait grand-chose, le Nil, pour soutenir Moshe. Mais néanmoins, on voit ici une chose qui, pour nous, est complètement étrangère. La karatatov, la reconnaissance du bien, même à quelque chose d'inerte, de l'eau. C'est rien. Encore quelqu'un, je comprends, il y a 80 ans, il m'a rendu un petit service. Non, moi, je devrais voir à karatatov. Mais là, on parle de l'eau. Eh bien, il n'a pas voulu frapper l'eau à cause de cela. Tsfardéim, les grenouilles. Je comprends encore quand il frappe, on se change en sang, alors c'est pas sympa pour l'eau. Mais les grenouilles, l'eau n'a rien fait. L'eau, elle contient les grenouilles. Ils ont frappé le Nil, les grenouilles sont sorties. Le Nil était content, ça, il n'y a rien à faire qu'il y ait des grenouilles, pas de grenouilles dans le Nil. Mais néanmoins, il fallait frapper l'eau. Et il ne pouvait pas faire ça, mon cher Abel. Après, il a dû frapper le sol, le sable. De là sont sortis tous les poux. Ça non plus, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a tué l'Égyptien qui frappait un juif, il l'a tué et il l'a enterré dans le sable. Et grâce au sable, il a pu cacher l'Égyptien. Donc il a reconnaissance du bien au sable. Pour combien de temps de service? Qu'est-ce qu'il a fait le sable? C'est moins de 24 heures. Pendant moins de 24 heures, le sable a caché le corps de l'Égyptien. Après, tout le monde savait qu'il avait tué l'Égyptien et il a failli se faire tuer à cause de cela. Pour moins de 24 heures que le sable, il a rendu service à Moshe, Moshe ne peut pas frapper la terre, ne peut pas frapper le sable. Bon, évidemment, pour nous, c'est des choses qui sont complètement hors de notre conception, mais il faut savoir que ça existe aussi. Même par rapport aux animaux, il y a dans le nord du pays, un peu près de Haïfa, il y a un endroit qui s'appelle Rechassim. Là-bas, il y avait une yeshiva avec un rosh yeshiva, ça s'appelle Rav Eliyahu Lapian. C'était un des grands tzadikim ashkenazes de la génération passée, il y a 50 ans. Et il y a eu un problème, c'est qu'il y avait plein de souris dans la yeshiva, surtout dans la salle à manger, dans la cuisine, plein de souris. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a des souris? Ils ont amené une chatte. La chatte, pas besoin de lui donner à manger, elle va manger sur place, elle mangeait les souris, au bout de quelques jours, il n'y a plus aucune souris. Bon, les souris sont parties, elles vont dire, ok, ben, on a plus besoin de la chatte. Ils ont voulu la renvoyer, elle ne partait pas, elle l'a renvoyée. Le Rav, il sort, il voit qu'il essaie de la renvoyer, mais pourquoi? Ben, ça finit, elle a fini son boulot, fini. Non, mais à Karatatov, on lui doit reconnaissance du bien. Elle nous a rendu service, elle a mangé des souris, on ne peut pas comme ça la mettre dehors. Et lui-même, il y a une photo, on le voit, donner à boire du lait à la chatte. À Karatatov, même aux animaux. À l'être humain, bien sûr. Mon cher Rabbeinu, à la fin de sa vie, Dieu lui dit, va te battre contre Midian. Et après, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianites? Ils ont amené les filles, à moitié pas habillées, et elles ont fait tomber beaucoup de juifs avec elles, Hachem Yishmor, surtout de la tribu de Shimon. Maintenant, on a un principe de la Torah qui s'appelle Gadol Hamartio Termina Horgo. Et pire, celui qui fait pécher un juif plutôt que celui qui le tue. Parce que s'il te tue, il t'enlève le Olam Hazeh. Mais s'il te fait pécher, il t'enlève le Olam Haba. Et le Olam Haba, il est infini, il est éternel. Donc c'est beaucoup plus grave. Donc il fallait partir venger ce qu'ont fait les Midianites au peuple d'Israël. Mon cher Rabbeinu, il envoie le petit-fils d'Aaron, Elazar ben Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen. Pourquoi pas lui? Dieu lui a dit à lui, et je ne peux pas. J'ai habité 68 ans en Midian. J'ai mangé leur pain, j'ai mangé leurs œufs, j'ai mangé leur salade, j'ai habité là-bas, j'ai profité. Comment je peux aller maintenant me battre contre les Midianites? Impossible. Akaratatov, même aux ennemis qui t'ont fait tellement de mal. Bien sûr, chez nous, tous ces points nous concernent, mais celui qui nous concerne le plus, c'est quoi? Avec la famille proche. À qui on doit le plus de la Karatatov? Que la Torah nous ordonne cela? À nos parents? Un enfant ne veut pas savoir combien les parents ont souffert pour lui jusqu'à ce que lui-même devienne parent. Quand il devient papa et maman, il se rend compte combien d'efforts. Ma femme m'a dit qu'il n'y a pas une, en 20 ans, il n'y a pas une nuit qu'elle a eue normale du début à la fin, on pouvait dormir. Ça n'existe pas, tu as toujours un enfant qui se met à pleurer, un autre qui fait ci, un autre qui fait ça, d'accord. C'est énorme. Et puis, c'est. Combien on doit avoir de Hakaratatov à nos parents? Et la Torah nous l'ordonne. Cinquième et dix commandements. Dans la première table de la loi, c'est entre Dieu et nous. Deuxième, entre nous et notre prochain. Et qui Boudavahem, d'honorer ses parents, c'est dans la table de entre nous et Dieu. Ben, c'est pas Dieu, c'est mes parents, c'est l'autre, l'homme et son prochain. T'as pas compris, mon cher ami. Pour toi, tes parents, c'est comme Dieu. Qui t'a mis au monde? Trois entités, Dieu, ton père, ta mère. Donc ta père et ta mère sont comme Dieu. Donc c'est mis dans les tables, la première table, la relation entre nous et Dieu. Comme ça, on doit considérer nos parents. Comme Dieu. Alors, Bessan Abachaou, il a dit, depuis l'âge de 12 ans, jamais ma mère m'a demandé quoi que ce soit. Je devinais avant et je le faisais déjà. Jamais. Tu comprends ce que ça veut dire? Que dans la famille normale, les parents doivent dire 1000 fois pour que le gosse, ils veulent bien et il hausse comme ça les épaules et il fait rien. Pauvre type. C'est énorme. Il y a deux mitzvot dans la Torah, c'est marqué qu'elle rallonge les jours. Chazal dit, et si tu ne rallonges pas, ça raccourcit les jours. Une d'entre elles, c'est Kibbud Av V'Em, honorer son père et sa mère. Deuxième, c'est Shiluach HaKen, envoyer la mère des pigeons de ses œufs. Et là, je vous raconte une histoire de Hakaratatov extraordinaire, que je raconte des joies assez souvent ici, tellement elle est belle, avec le stapler. Le Stipler, c'est donc le père de Abraham Kanievski, Rabbi Yaakov Israel Kanievski. Il est arrivé en Israël, c'est encore avant la Shoah, si je me souviens bien. Et il est d'une pauvreté terrible. Attends, c'était un grand sage d'Israël. Énorme, le Ruach HaKodesh. Il disait un mot, ça se réalisait. J'ai eu la chance, Baruch HaShem, d'aller le voir plusieurs fois quand j'étais jeune. Et il était extrêmement pauvre. Donc, plein de gens étaient d'accord de lui donner de l'argent, il ne voulait pas. Il a dit, je ne suis pas certain que l'argent est propre. La vérité, quand tu n'es pas certain, tu peux prendre, d'après la loi. Mais lui, il était marmé, il ne voulait pas. Donc il est d'une pauvreté terrible. Il y a un type à Bnei Brak qui s'appelle M. Dardak. Il lui a dit, écoutez, moi j'ai un fils qui est en Amérique. Vous écrivez des livres. Envoyez-lui les livres là-bas en Amérique. Il les vendra pour vous. Vous aurez l'argent. Il dit, bon, je suis d'accord. Et comme ça, ils ont commencé. Le fils Dardak en Amérique, il s'y connaissait bien en études de Torah. C'était pas un ignare. Alors, quand il y avait le nouveau livre qui sortait, il lisait. Et après, il écrivait au staple. Quand il envoyait l'argent, il écrivait aussi une lettre avec toutes sortes de remarques sur ce qui était écrit. Le staple répondait. Et comme ça, il s'écrivait. Comme ça, pendant 20-30 ans, ils sont écrits chaque fois avec les colis qui allaient et qui venaient. Puis un beau jour, sa père est devenu déjà vieux. Il répondait, lui, il répondait à tout ce qu'on lui écrivait, à tout le monde. Il répondait, comme son fils aussi. Abraham Kanevski, il avait tous les matins, il mettait à côté de lui un tas comme ça de cartes postales. Les cartes postales sans images, d'accord. On écrit sur la carte postale, on donne ça à la poste et ils envoient. Il répondait à toutes les questions qu'on lui envoyait. Mais très très court, très très court. Une fois, j'ai pris quelqu'un ici en stop, il m'a dit qu'ils ont écrit une fois une... pose une question à Abraham Kanevski, est-ce que chez l'Ashkenazim, dans le Sidour, ils écrivent le nom de Dieu Yud Yud? Yud Yud. Nous, on écrit en entier, avec Avanot de la Kabbalah et machin. Le Yud Yud. Pose la question, est-ce qu'on a le droit d'écrire Yud Yud? Ou bien c'est le nom de Dieu? Alors, le Rav répond toujours très très court. Elle a écrit Chaim. Chaim, c'est son nom, Abraham Kanevski. Dans Chaim, tu as Yud Yud. Donc tu vois qu'on peut écrire, il n'y a pas de problème. Il répondait. Le stapler, un beau jour, il a dit, j'ai plus la force. Je suis trop vieux, ça prend trop de temps. J'arrête de répondre aux lettres. Bon, les gens ont arrêté d'écrire. Mais le fils Dardak, quand il a envoyé le colis avec l'argent, il a envoyé sa lettre avec toutes les annotations. Si le stapler, c'est pas joli, qu'est-ce qu'il va dire si je ne réponds pas? Le stapler, il n'avait pas d'argent, je lui ai rendu service pendant 30 ans, et maintenant je lui écris, il ne me répond pas, c'est pas joli. Alors il lui a écrit. Il lui a écrit. Il va à pied jusque chez M. Dardak, le père, qui habitait assez loin. C'est un jour d'été à Bnei Brak. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle l'enfer. J'avais un ami une fois, je lui ai dit, tu passes où Shabbat? Il venait en été de Paris, lui, à Bnei Brak. À Bnei Brak, attention. Il est revenu, il m'a dit, c'était terrible. Il y avait l'air conditionné au salon, mais dans les chambres, il n'y avait pas. Il s'est mis torse nu, il s'est collé au mur comme ça, histoire de refroidir un peu la situation, d'accord? C'est des chaleurs torrides. D'ailleurs, dans la famille du stapler, il n'y avait pas d'air conditionné, ça n'existait pas. Il y avait un ventilateur. Bon, ça n'aide pas, ça aide pas à grand-chose. Son fils non plus, Abraham Kanevski, des dizaines d'années, il n'a pas eu de masgan, comme on dit, soit
de clim.
Il y avait le ventilateur. Puis un jour, il a mis la clim. Il a dit, je me demande si je ne devrais pas rendre compte à Dieu de tout le bitul Torah, tout ce que ça m'a fait moins bien étudier, que je n'ai pas eu la clim. Parce qu'il fait tellement chaud, c'est une chaleur torride qu'il fait là-bas. Le stapler va à pied chez M. Dardak, qui habitait, je crois, 3e ou 4e étage. Il monte, il est très très vieux déjà, il arrive complètement essoufflé, transpirant, il tape à la porte et dit, M. Dardak, voilà, c'est une lettre pour votre fils. Mais Kvodara, je serais venu moi-même, il ne fallait pas venir pour vous. Non, c'est bon, il lui donne la lettre. Deux, trois jours plus tard, le stapler revient chez M. Dardak, essoufflé, il a chaud, transpirant, il tape à la porte. Il dit, vous avez déjà envoyé la lettre? Il dit, non. Ah ben, c'est très bien, rendez-la-moi. Mais pourquoi? Je veux arranger la lettre. Bon. Deux, trois jours plus tard, le stapler revient du mot transpirant, etc. Et donne la lettre à M. Dardak. Il dit, vous avez changé quelque chose? Il dit, non. C'est la même lettre? Non. J'ai recopié la lettre d'avant. Mais pourquoi? Il dit, écoutez, quand j'ai écrit la première lettre, pourquoi je l'ai écrite? Parce que j'ai pensé, c'est pas joli, que lui... il m'a aidé comme ça pendant 30 ans. Il va se dire, regardez le stapler, je lui ai écrit, il ne me répond pas. C'est pas joli. Alors je lui ai écrit. Je me suis dit, mais c'est pas ça la bonne raison. La bonne raison, je dois vraiment avoir Akaratatov, la reconnaissance du bien qu'il m'a fait. J'ai réécrit exactement la même lettre, mais avec le sentiment que j'avais une grande reconnaissance du bien qu'il m'a fait. Vous comprenez qu'est-ce que c'est, ces grandes sadikims? C'est phénoménal. Phénoménal. Et pour lui, c'était dur d'aller à pied, revenir, tout ça. Et bon, la lettre, j'ai écrite, c'est bon, je n'ai pas pensé ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on en a à faire. Voilà, chers amis, c'est une bonne leçon pour nous de commencer à avoir un peu plus à Karatatov. Autre hidouche, le Stipler, il écrit que lorsque, ici dans la Torah, on nous parle de la plaie des grenouilles, c'est marqué que est sortie du Nil à Tsfardea une grenouille. Et Chazal dit, c'est une très grosse grenouille, une seule est sortie. Et puis on dit, c'est ça votre plaie là, des grenouilles? Mais c'est rien du tout. Ils ont mis une pioche, donné un grand coup comme ça dans la tête de la grenouille, et tout à coup, par le trou, on commence à sortir des milliers, des milliers, des milliers de grenouilles. Et eux, ils étaient très fâchés, les Égyptiens sont venus commencer à donner des coups comme ça, encore des trous dans le corps de la grande grenouille, encore des milliers de grenouilles sortaient. Le staffeur, il a dit, c'est exactement ce qui se passe dans les bagarres. Quelqu'un vient, te fait du mal. Si tu es intelligent, tu te tais, tu dis rien. Si tu n'es pas intelligent, tu réagis. Et tu réagis un peu plus fort que ce qu'il t'a fait. Donc tu donnes un coup de pioche. Et lui, il commence, il ouvre la bouche et commence ta 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 ta. Et toi, dans l'autre sens. Ça fait des bagarres qui peuvent durer des fois des générations et générations. C'est très courant hein, quand il y a des problèmes d'héritage dans la famille. Le papa est décédé, il avait de l'argent, Baruch HaShem, et on partage, et un qui n'est pas d'accord, j'ai pas reçu assez, oui t'as reçu assez, j'ai pas reçu assez. Et comment ça commence la bagarre? Des fois, 3-4 générations plus tard, ils sont tous morts déjà, les arrière-petits-enfants ne parlent pas ensemble, ça c'est pas ensemble sur la même table, parce que la bagarre qu'il y a eu peut-être il y a presque 100 ans, d'accord? Terrible! Une fois avec quelqu'un, hein, qui est très fâché contre un autre, il veut se bagarrer avec lui. Le Rav Shach lui a dit, écoute mon cher ami, pour faire une bagarre, il faut deux personnes. Si tu réponds, il y aura lui et toi. Si tu te tais, il n'y aura que lui tout seul. Un, deux, trois jours, il sera fâché, après il va se calmer, après il te demandera pardon. Et même s'il ne te demande pas pardon, au moins il n'y aura pas la bagarre. Combien c'est grand d'arriver à ne pas répondre. La Gemara, elle dit, il y a un verset, « Tolé eretz al blima » Dieu suspend la terre sur blima, littéralement c'est des freins. On peut lire aussi blima sans rien. La terre elle tient pas sur les épaules de Héraclès ou autre chose, d'accord? Elle tient tout seul comme ça. Chazal on dit, le monde tient sur celui qui freine sa bouche lorsqu'il y a une bagarre. Ta femme te dira espèce de pauvre type. Comme ça. Mais c'est toi la pauvre type, et ton père aussi. Aïe, 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 aïe. Des fois, toute sa vie, elle va te dire, t'as traité mon père de pauvre type. C'est toi le pauvre type, fallait fermer ta bouche. Le monde tient sur celui qui tient sa bouche, retient sa bouche, freine sa bouche quand il y a une bagarre. Combien c'est grand. D'où on apprend ça? De la grenouille. Fais pas la même bêtise que l'Égyptien, te fâcher et le faire des trous dans la tête.
Alors là, on peut pas trop se taire,
on
peut se faire écraser.
On se tait toujours. Parce que lorsque tu es fâché, il y a une bagarre et tu réponds pas avec la tête, tu réponds avec le cœur, avec ton ego qui a été touché. L'ego, c'est un animal sauvage, un fauve, un tigre. Maintenant, la personne en face, elle a aussi un tigre dans le cœur. Si c'est ton tigre qui parle, ça réveille son tigre. Ça devient une bagarre terrible. Alors tu te la fermes. 3-4 jours plus tard, ou une ou deux semaines plus tard, on s'est calmé, on n'a même plus envie de parler de ça. Là, tu vas lui parler. Avec ta tête, avec un grand sourire. Tu sais mon cher ami, ta femme, tu sais ma chérie, la dernière fois, tu tout. C'est pas comme ça, il faut qu'on fasse mieux. Tu parles gentiment avec la tête. Elle va entendre, elle va accepter. Quand il y a la bagarre, on n'entend rien. Parce que c'est notre ego qui est là, on ne peut pas supporter que l'autre nous fasse une remarque. Apprendre à se taire pendant la bagarre. Quand on est calmé, on n'a même plus envie d'en parler. Ah, ça c'est une mitzvah. Quand il y a une mitzvah d'en parler, le Yasserin dit non, ça ne sert à rien, laisse tomber. D'accord? Non, vas-y, parle. Avec un grand sourire, gentiment, tu la prends au restaurant, tu la prends un petit machin, d'accord? Un gros machin, je ne sais pas, d'accord? En fonction. Ici, chapitre 8, verset 21. Paro appelle Moshe et Aaron et leur dit, allez, c'était après la plaie de Arov. Arov, c'est les bêtes sauvages qui sont venues. Ils ont beaucoup souffert, les bêtes sauvages les ont dévorées. Alors Pharaon leur dit, allez-y, mais vous voulez partir dans le désert, aller sacrifier à vos dieux? Non, faites-le ici, dans la terre d'Égypte. Comment ça se fait? Moshe, il a dit, non, on va aller dans le désert. Alors ça, c'est le verset 21. Au verset 17, on nous parle maintenant de la plaie qui va arriver. Dieu dit, non, c'est Moshe qui dit au nom de Dieu à Pharaon, je vais amener maintenant les bêtes sauvages. Umalou batem Mitzrayim et Aharov. Et toutes les maisons d'Égypte seront remplies de ces bêtes sauvages. Vegam ha'adama asher hem aler. Et aussi la terre sur laquelle ils sont. C'est quoi cette histoire de la terre sur laquelle ils sont? En fait, Hachem, quand il a amené toutes les bêtes sauvages, il a amené toutes les bêtes sauvages du monde. Tu avais, je ne sais pas moi, l'ours blanc de l'Antarctique. Alors il arrive là-bas en Égypte, il va avoir un peu chaud, d'accord. Alors il a amené avec lui la terre d'Antarctique. Un morceau comme ça, de terre d'Antarctique, des icebergs, et là-bas il y avait l'ours sauvage. Tu avais le serpent de l'Amazonie, ben, il est venu avec la forêt amazonienne. Tu avais le crocodile de l'Ouganda, d'accord, il est venu avec sa mare. Et les crocodiles avec leur mare. Tous les animaux sont venus avec la terre du pays d'où ils venaient. Évidemment, la terre d'Égypte a été complètement détruite. Tu as de l'Antarctique, tu as des marécages, tu as qu'est-ce que j'en ai, l'Amazonie, la forêt amazonienne, et l'Égypte, elle n'existe plus. Alors Pharaon va dire, à quoi ça sert de sortir dans le désert? Tu l'as ici, le désert. Fais ça ici. Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Mais Moshe, l'on a rendu la sauterelle, on ne peut pas faire comme ça. On va aller sacrifier l'avodazara des Égyptiens. Les Égyptiens, ils servaient les moutons. Pour eux, c'était une avodazara, une idole. On va aller maintenant égorger les idoles des Égyptiens et ils vont pas nous lapider. Impossible, que ce soit le désert ou pas, on est obligé de sortir dans le vrai désert, pas dans le nouveau désert qu'il y a eu par les bêtes sauvages ici en Égypte. Et on finit avec un dernier chidouche. Après la plaie de la grêle, Tet Kafzaïn, Pharaon appelle Moshe et Aaron et leur dit, Khatati Hapam, j'ai péché ce coup-là. Je reconnais que j'ai péché. Hachem a tzadik, Dieu est le tzadik, va'ani va'ami areshaim. Et moi et mon peuple, on est les reshaim. On est les mécréants. Il reconnaît. Extraordinaire. Pour Pharaon, c'est pas mal. Bon, Moshe va, il prie Hachem, s'arrête la grêle. Réaction de Pharaon, tout de suite, il dit non. Vous restez ici, personne ne sort. Mais je ne comprends pas, il y a quelques secondes, tu m'as dit, c'est nous, c'est Dieu le tzadik, et nous, les Réchaïm, moi et mon peuple. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour nous, c'est un grand exemple de voir comment fonctionne le Yetzerara. Pharaon, c'est un rachat. Le rachat, c'est marqué que les Réchaïm, ils sont dans les mains de leur cœur. Les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Le cœur fait ce qu'il a envie. Très souvent, il ne fait pas ce que Dieu veut. Il fait ce qu'il a envie. D'accord? Le tzadik, il maîtrise le corps, il dit non, ça je ne suis pas d'accord, c'est moi qui décide. On a un principe qui est écrit dans Balatania, premier rabbin de Lubavitch, il dit Mohar Shalit al Lev. La tête est à la maîtrise du corps. Si tu fais marcher ta tête, tu peux maîtriser ton corps. C'est un travail, c'est notre travail toute notre vie. Faire marcher la tête pour aller conquérir le cœur et que le cœur soit dans notre main. Mais si on ne fait pas ça, et Pharaon ne faisait pas ça, alors le cœur fait ce qu'il veut. On lui a tapé dessus, la grêle, c'est bon, vous avez raison, c'est vous les sadikim, nous on est les réchaïm. Bon, on arrête. Le cœur, il n'est pas intelligent. Le cœur, il voit que maintenant c'est fini. Allez, de nouveau, sa grande envie de retenir le peuple d'Israël pour pas qu'il sorte, elle revient. Bien que c'est complètement anormal qu'en quelques minutes comme ça, il change d'avis, on ne parle pas de la tête, on parle du cœur. À nous de faire attention, de ne pas suivre notre cœur. De réaliser les paroles du Rabbi Lubavitch, la tête maîtrise le cœur, et comme ça on pourra être des tzaddikim, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen.